Bienvenue à tous à Parole Révélée, une émission de Radio Chandelier, la voix qui proclame la vie de lumière. Bonne Pâque, nous avons choisi pour vous édifier, c'est la source de la parole. Bonne écoute en compagnie du révérend docteur Dion Yaye Robert.
Gloire à Jésus. Bonjour à tous. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler de l'origine de la parole de Dieu. Vous allez me dire déjà, mais puisque vous avez dit parole de Dieu, Dieu est déjà son origine. Mais vous voyez, souvent la confusion qui fait que nous n'obéissons pas, c'est que nous pensons que c'est les hommes qui parlent. C'est comme ça nous pensons. Et nous prenons à la légère la parole de Dieu. Et nous disons, oui, ça c'est quelqu'un qui est en train de parler. Et nous ne voyons pas que c'est Dieu qui parle. Regardez 2 Timothée. 2 Timothée, le chapitre 3. Dites-moi, qui est convaincu que nous sommes dans les derniers jours? Nous sommes dans les derniers jours. Et la parole de Dieu est une nécessité. Il nous faut une ressource face à l'apostasie des derniers temps. Parce que les derniers temps seront marqués par toutes sortes de corruptions morales, par toutes sortes de pressions. Nous sommes dans les derniers temps. Et vous verrez que les hommes vont vivre leur liberté, une liberté licencieuse, c'est vrai. Et il y aura la licence un peu partout. Les hommes vont être, entre guillemets, libérés d'eux-mêmes. Ils vont vouloir la liberté d'expression et tout ça. Mais en même temps, la liberté de l'homme étant garantie, il sera amené à faire ce qu'il veut. Et c'est ce qu'on appelle l'apostasie. C'est la licence. Tes droits seront garantis, mais en même temps, les hommes ayant leurs droits garantis, le droit à la vie garanti, cela leur donnera l'occasion de vivre comme bon leur semble. C'est ce qui arrive dans certains pays déjà. C'est ce qui est déjà arrivé dans certains pays où on peut légaliser la prostitution, on peut légaliser l'avortement, on peut légaliser l'homosexualité, des choses que la Bible condamne dans Romains. Bon, ce serait normal. Vous voyez déjà les hommes et les femmes, des hommes qui se marient, qui vont devant les maires. Où le maire dit, monsieur, tant... désirez-vous prendre pour époux monsieur X? Et il dit oui. Le droit est garanti, c'est sa liberté. Il y en a déjà dans certains pays qui marient les animaux, des chiens, des chattes, des chats. Je lisais tout dernièrement un journal où j'ai vu un article à propos de ce qui se passe en Allemagne, dans certains endroits où certaines personnes, entre guillemets, religieuses, invitent tous les animaux dans un culte pour dire « les animaux sont nos frères ». Ça veut dire que je demande à tous les chrétiens, chacun n'a qu'à attraper un mouton, chacun n'a qu'à amener un canard, chacun n'a qu'à amener un chat. Et dans le culte, vous êtes assis là et on donne une place aussi aux moutons. Et on dit « ce sont nos frères, ils ont été créés comme nous ». L'homme se dit civilisé, mais il est devenu très vil. Et pour nous, enfants de Dieu, la Bible dit que nous devions séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Si nous arrivons à séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, nous serons comme sa bouche. Le diable nous fera la guerre, mais il n'aura pas le pouvoir. Nous serons plus que vainqueurs. Alléluia. Donc vous voyez, nous sommes entrés dans une période de la fin des temps où les gens vont vivre comme bon leur semble. Le péché sera normal. Le péché sera normal. C'est pour cela que la Bible, le texte que nous allons voir, montre la nécessité à l'Église de Jésus-Christ de se ressourcer dans la parole. C'est seule la parole de Dieu qui nous maintiendra contre les vents et les marées de l'apostasie. Seule la parole de Dieu dans ton cœur peut empêcher la corruption de l'esprit. Seule la parole de Dieu. Ce n'est pas l'heure où nous devions négliger la parole. Au moment où on parle de la nouvelle morale, où il y a des théologies, la théologie de la nouvelle morale, c'est en ce moment que nous devions nous ressaisir pour redevenir ce que nous devions être, ce que nos frères, nos premiers frères et nos premières sœurs ont été entre les mains du Seigneur, des hommes et des femmes fidèles. Dans ce domaine-là, c'est bon d'être conservateur, de conserver la saine doctrine, de ne pas céder au libéralisme théologique où, c'est écrit dans la Bible, dans le temps passé, on dit péché, maintenant on dit erreur. Dans le temps passé, il y a une fondation de la parole. Mais maintenant, les théologiens de la nouvelle morale sont en train de changer les choses selon le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on essaie de se conformer au monde au lieu de se conformer à la parole de Dieu. On essaie d'adapter la parole de Dieu au monde. Au lieu que le monde s'adapte à la parole de Dieu, on demande à Dieu. Dieu n'a qu'à vivre comme l'homme est en train de régler. On demande aux chrétiens de vivre selon le train de ce monde. Mais comprenons que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, vous voyez, il y a des signes qui montrent que nous sommes dans les derniers temps et il y a des signes qui montrent que la parole de Dieu est plus que nécessaire de nos jours. Ce n'est pas l'heure de négliger l'étude de la parole de Dieu. Regardez 2 Timothée chapitre 3. On introduit ce texte. Le Saint-Esprit a introduit ce texte pour montrer comment au dernier temps Satan va marquer les gens. Dans Apocalypse, on a fait référence à ce texte que ce texte montre, n'est-ce pas, l'indication du chiffre 666. Qui est simplement quoi? Ce chiffre dénote quoi? Ce chiffre montre plutôt le caractère de Satan, c'est-à-dire 18 péchés, 3 groupes de 6 péchés qui forment le nombre de Satan, le chiffre 666. Et ce texte qui nous montre que nous sommes dans les derniers temps identifie, n'est-ce pas, ce chiffre. Et quand vous lisez là-bas dans les Apocalypses, on fait référence à ce texte qui montre clairement que le chiffre de Satan est identifié dans ce texte. Le chiffre de Satan nous montre quoi? Nous montre l'apostasie généralisée. Comment Satan, l'esprit du diable, va marquer l'humanité? Et à la fin, on nous mettra en garde pour que nous puissions nous attacher à la parole de Dieu pour être préservés de la marque du diable, pour ne pas être marqués par Satan, pour ne pas adopter son caractère et être marqués par le chiffre 666. Il faut la parole du Seigneur. Seule la parole de Dieu peut nous préserver de l'apostasie. Regardez, il est dit ceci. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. La Bible ne nous apprend rien. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps, dans les derniers temps, nous savons qu'il y a des temps qui commencent à être difficiles partout. Dans les derniers jours, il y a eu toujours des temps difficiles, même au temps des apôtres. Mais ce que nous vivons actuellement, c'est différent, n'est-ce pas? L'atmosphère actuelle est différente de l'atmosphère dans laquelle les Paul et autres vivaient. C'est vraiment différent. Aujourd'hui, sans guerre, vous êtes en guerre. Et avec la guerre, vous êtes doublement en guerre. Il y a la guerre spirituelle et il y a la guerre physique. L'homme est cerné de toutes parts. C'est les derniers temps. Les choses qu'on ne voyait pas avant, on les voit maintenant. Le temps même a changé, l'époque a changé. Tout est déréglé. Comme la Bible dit, n'est-ce pas, tout est déréglé. Hein? Tout est embrasé. C'est dit dans 2 Pierre, tout est embrasé déjà. Et nous vivons ces choses. Souvent, il m'arrive de dire, mais hey, nos enfants, que seront-ils dans 10 à 15 ans? Que seront-ils dans 20 ans? Que seront-ils? Qu'est-ce qu'ils vont vivre? Regardez un peu la vie des enfants aujourd'hui, ce qu'ils sont. Regardez aujourd'hui. C'est différent d'avant. Les enfants qui vont à l'école aujourd'hui, regardez ce qu'ils sont. Tout petit, 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 qu'est-ce qu'ils connaissent? Rien du tout. Et demain, que sera demain? Avec toute cette oppression que le monde connaît, avec cette oppression, cette pression et cette oppression, l'homme est oppressé, nous sommes pressés et nous sommes en même temps oppressés. Chacun est pressé, personne n'a plus le temps. Ça veut dire que nous sommes coincés et les temps deviennent de plus en plus difficiles. Et qu'est-ce qui marque cette époque des derniers temps? Les hommes seront, comment? Lisez là. Les hommes seront égoïstes. Ils seront quoi encore? Amis de l'argent. Est-ce qu'ils ne sont pas égoïstes aujourd'hui? Chacun vit pour soi. Chacun pour soi. On dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Dieu, lui, il est Dieu, il n'a qu'à s'occuper de tous. Mais, mon frère, moi, je m'occupe de moi. Moi d'abord, mon frère après. Et Jésus dit, non, ton frère d'abord, toi après. Il dit, mais la loi de Jésus, ça c'est fort, on n'aime pas ça. C'est l'égoïsme. Les nations vivent l'égoïsme, les familles vivent l'égoïsme, les hommes vivent l'égoïsme. Le diable marque les hommes par l'égoïsme. Première marque de Satan, c'est l'égoïsme. Et les hommes sont devenus amis de l'argent. Regardez, à cause de l'argent, tout ce qui arrive à ce monde. Amis de l'argent. Je me souviens, j'étais jeune, on ne connaissait pas l'argent. On demandait les arachides à nos parents, arachides. On demandait du sucre. On demandait un morceau de sucre, arachides, bonbons. Aujourd'hui, c'est l'argent. Tout ça, on ne demande pas. L'enfant, lui, il veut l'argent pour que lui-même gère. Et les enfants connaissent la monnaie de nos jours. Si tu lui donnes 50 francs, il sait que c'est 50 francs. Si c'est 25 francs, il n'est pas content, il dit c'est petit. Et les hommes sont devenus amis de l'argent. C'est deuxième marque. Ils sont devenus fanfarons. Fanfarons, bavards, racontards. Les gens sont fanfarons. Troisième marque. Les gens sont hautains. Ils sont hautains. L'orgueil. Ils pensent qu'ils sont quelque chose. Les hommes sont devenus hautains. Quatrième marque. Non, cinquième marque. C'est quatrième marque. N'est-ce pas? Ils sont devenus blasphémateurs. Ils blasphèment. Oh Dieu, n'est rien, Dieu. Ça, c'est anachronique. Mettons Dieu de côté. Mettons Dieu de côté, il y a des pays. Dieu, ça, c'est rien. Le modernisme a pris le pas. Dieu, lui, il est trop archaïque. Mettons Dieu de côté. Vivons le siècle. Dieu est trop archaïque. Il est anachronique. Parle de Dieu en français. Il ne va même pas écouter. Dieu, c'est qui? Il va dire que Dieu, c'est lui. sont blasphémateurs. Ils blasphèment. Les gens sont devenus rebelles. Rebelles à leurs parents. Il y a la rébellion partout. Ça, c'est les deux premiers six. Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Nous le savons, c'est les premiers six. Le deuxième six. Les gens sont devenus ingrats. Quand tu fais du bien aujourd'hui, on te paye en mal. Si tu veux être bon, on va dire que tu vaux rien. Il faut être mauvais. Les mauvais sont appréciés. Mais les bons, non. Il y a l'ingratitude. On ne peut plus rendre service. C'est ce que Jésus a vu pour dire l'iniquité va s'accroître au dernier temps et la charité du plus grand nombre va se refroidir. Les gens cesseront de faire le bien à cause des expériences qu'ils ont déjà vécues. Parce qu'ils ont rendu service, c'est retourné contre eux. Amuse-toi. Tu vas voir quelqu'un, tu as une voiture, tu vois quelqu'un qui souffre au soleil. Tu vas le prendre à bord de ton véhicule. En cas d'accident, il va mettre tout sur toi pour que l'assurance lui donne l'argent. Il ne dira pas qu'il m'a rendu service. Il dira qu'il m'a pris l'argent même. Parce que son avocat lui dira, dis qu'il m'a pris l'argent pour que tu gagnes un peu dedans. Voyez ? Les hommes sont ingrats. Il y a l'ingratitude et ça, c'est le commencement du deuxième chiffre 6. Ils sont ingrats, ils sont devenus irreligieux. Irreligieux ici, ce n'est pas la religion. C'est plutôt sans pitié. Ils sont sans pitié. Il n'y a plus de pitié. Quelqu'un peut mourir à côté, ça ne dit rien. Allez-y dans les hôpitaux. Vous allez voir, il n'y a plus de pitié. Il n'y a plus de pitié. Quelqu'un meurt à côté. On dit envoie l'argent, sinon tu meurs. Si tu n'as pas l'argent, on ne peut pas t'hospitaliser. Pas de pitié. Plus de pitié. Les urgences sont devenues patience. Et si tu parles, on dit, mais après tout, tu es venu à l'hôpital, tu es un patient, non? Un patient doit être patient. Il n'y a plus de sensibilité, voyez? Il n'y a plus de pitié. Les gens sont devenus irreligieux. Plus de pitié. On peut égorger quelqu'un tout sur place. Bon, ça ne dit rien. L'essentiel, c'est d'avoir un intérêt. Les gens sont devenus insensibles. Il n'y a plus de sensibilité. Vous voyez? De plus en plus, il n'y a plus de sensibilité. Insensible aux problèmes des autres. Insensible. Vous voyez? Ça, c'est le troisième chiffre. Déloyaux. Les gens sont devenus déloyaux. C'est-à-dire, ils appellent bien mal et ils appellent mal bien. Quand tu fais le mal, on dit il est bien. Quand tu fais le bien, on dit, oh lui, là, il exagère, il est dépassé. Quand tu ne veux pas commettre le péché, on dit, mais toi aussi, tu vis dans quel monde? Tu te crois où? Sache que tu as les pieds sur terre, tu n'es pas au ciel. Les gens sont déloyaux. Déloyaux. Donc, ça fait le quatrième signe. Ils sont devenus calomniateurs. La calomnie s'est développée. On raconte des choses sur n'importe qui sans preuve. C'est la calomnie généralisée. Calomniateurs, ils sont devenus intempérants. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tempérance. Lundi, mardi, il est gentil. Mercredi, jeudi, vendredi, il est méchant. Samedi, il devient gentil. Il y a des jours où on ne doit pas le toucher. Il y a des jours où il est triste. L'homme est devenu intempérant. Il n'y a plus de tempérance. Le deuxième 6, ça fait combien? 66, n'est-ce pas? Il y a deux 6. Maintenant, troisième 6. Les gens sont devenus cruels. Très cruels et ça ne leur dit rien. Ennemis des gens de bien. Les hommes sont devenus ennemis. Ceux qui sont des gens de bien, on ne les aime pas. Si vous êtes un homme de bien, une femme de bien, vous avez l'Esprit de Dieu, on va vous haïr. On va vous haïr. Donc, ils sont devenus ennemis des gens de bien. D'autres sont devenus traîtres. Traîtres, ils se trahissent. Ils sont traîtres. D'autres sont emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. De nos jours, les hommes aiment le plaisir plus que Dieu. Ça, c'est le troisième 6. Ça fait, n'est-ce pas, l'ensemble de ces 3-6 forment le chiffre 666 qui n'est autre chose que le caractère, c'est des noms de blasphème. C'est ce que la Bible dit dans Apocalypse, c'est le caractère de Satan. C'est le caractère de Satan. Pour nous, enfants de Dieu, notre caractère se trouve dans Galates 5, 22. Le fruit du Saint-Esprit, c'est quoi? L'amour, etc., etc. Pour Satan, c'est ici qu'on dénote. On note cela. Et vous voyez, c'est ce que sont devenus les hommes. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Ils renient Jésus. Ils renient la puissance de Dieu, la parole de Dieu. Ils renient le Saint-Esprit, la vie de Dieu même. On renie. Alors, il nous est dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Et seule la Bible, la parole de Dieu peut t'aider à t'éloigner de l'apostasie. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire tous les jours. C'est pour cela, voyez, quand vous négligez, celui qui néglige la parole de Dieu, il est prêt à tomber. Si vous ne gagnez le monde vous gagnera. Et comment on peut gagner le monde? Comment on peut dominer la vie de ce monde qui nous sollicite? C'est en ayant la parole de Dieu. Comme il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est une nécessité. C'est pourquoi nous ne devrions pas négliger l'étude de la parole. L'étude de la parole. Nous ne devrions vraiment pas négliger. Lorsque nous venons écouter la parole de Dieu, il faut être centré sur le Seigneur de sorte que tu ne perdes rien. Ça y va pour ton bien. Et puis, il faut être sensible à la voix de Dieu pour obéir. Parce que rien ne sert d'écouter. Si tu écoutes que tu n'obéis pas, l'apostasie va te gagner et tu seras détruit. Tu seras la proie du diable, tu seras la proie de toutes ses attaques et tu n'auras pas la victoire. C'est pour cela qu'il est nécessaire, n'est-ce pas, d'aimer la parole. La parole de Dieu nous permettra, n'est-ce pas, de savoir notre statut en tant qu'enfant de Dieu et de prendre garde à tout ce qui peut être une corruption qui essaie d'asservir notre esprit. Seule la parole de Dieu nous conduit. Vous voyez, il en est parmi ceux qui renient la parole de Dieu, qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché. Donc il y aura l'impudicité et l'adultère à un degré. Vous voyez, les femmes seront toujours victimes. Victimes. Mais vous qui êtes déjà chrétienne, mes sœurs, puisque la femme est faible, le diable a ses trousses. Voyez, lorsque nous prions, si nous avons une rencontre d'édification et de délivrance, s'il y a au moins 100 personnes qui sont délivrées, il y a au moins 80 femmes. Pourquoi? Parce que depuis le jardin d'Éden, le diable est aux trousses des femmes. Dieu a dit à Satan, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre toi et son lignage. Vous voyez, il faut que nos sœurs, vous ayez la parole pour être fortes. Ouais, les femmes auront des problèmes. Parce que c'est des êtres faibles. Mais mes sœurs, vous ne devriez pas, en tant que chrétienne, vous êtes devenues plus que vainqueurs. Amen. Vous ne devriez plus vous laisser à la séduction du siècle. Vous ne devriez plus vous laisser au monde. Et le monde vous sollicite. Si tu es une chrétienne quelque part, tu ne dois pas être un objet, un jouet. Et les femmes sont des jouets entre les mains du diable. Et le diable peut passer par les hommes pour asservir les femmes. Et de nos jours, c'est ça. Une femme qui travaille quelque part, on lui demande d'être aussi belle que possible pour attirer davantage. Et si elle veut adopter un comportement naturel, on lui dira, mais vraiment, ça dénote notre civilisation. Tu dois être ce que nous demandons que tu sois. Tu ne dois pas être ce que Dieu demande que tu sois. Et elle a des problèmes. Si elle ne veut pas se soumettre, bon, on la renvoie. Tu veux avoir ton diplôme? Bon, sois ce que je veux. Mais tu veux aussi avoir le diplôme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux avoir du travail, tu veux avoir ceci, tu veux avoir cela. Et il y aura une pression. Sans compter ce que le diable te propose pour toi-même. L'apostasie que le diable propose pour toi-même, pour ta propre vie. Et les femmes seront aussi un instrument de séduction. C'est pourquoi en tant que chrétienne, la Bible dit que les temps dans lesquels nous vivons, ce n'est pas les temps où vous devez vous laisser entraîner à la séduction, vous devez être une occasion de chute, vous ne devez plus être une occasion de chute pour l'église de Jésus-Christ. Et les sœurs doivent veiller sur leur vie. Est-ce que c'est clair? Donc nous serons face à la compromission dans la famille. La télévision va enseigner nos enfants la compromission. Le monde va enseigner nos enfants la compromission. La pornographie, tout ça, ça va influencer. Et la Bible dit que c'est le moment où nous devions aimer la parole pour que nos cœurs soient gardés dans la pureté. Nous devions aimer la parole du Seigneur. Parce que sa parole ne passe pas. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. On ne peut pas adapter la parole de Dieu au train du monde. À la manière dont Satan est en train, lui qui dit qu'il est le prince de ce monde. Il est actuellement le patron de ce monde. C'est lui qui va occasionner toutes sortes de passions. Mais si maintenant nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons la parole de création, nous nous conformons au monde, c'est dangereux. La Bible dit de travailler à son salut. Travailler à son salut, c'est quoi? Ce n'est pas des efforts personnels, c'est simplement l'obéissance à la parole. La parole de Dieu, c'est un trésor. Si nous l'avons, ne la perdons pas. Amen. Aimons la parole. Nous sommes à une époque où Satan va déverser sur le monde une guerre spirituelle terrible. C'est la guerre spirituelle. Tout ce que nous voyons comme un événement physique, politique. Au fait, ça c'est l'effet des choses qui se passent dans le monde, des ténèbres et contre l'humanité. Et l'église est visée. C'est l'église qui est visée. Si l'église est paralysée, si l'église n'a pas l'épée de l'esprit, c'est quoi? La parole. Si l'esprit de Dieu, Dieu n'a plus la parole, avec quoi il va combattre les démons pour nous? Avec quoi Satan sera lié? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à quoi? À la parole. Croire veut dire quoi? Obéir. Ceux qui auront obéi à la parole, voici les signes qui vont les accompagner. Ils chasseront les... Avec quoi? Avec Nasegi? Avec l'eau bénite? C'est la même sorcellerie là. Mais c'est avec la parole de l'Éternel. Et si tu négliges cette parole, si tu n'aimes pas cette parole, pour venir écouter cette parole, si tu traînes, si ça ne te dit rien, tu deviens religieux. La vie n'est plus là. Il nous faut l'amour de la parole de Dieu. Donc mes frères, aimons la parole. Ceux qui n'aiment pas, ils chercheront toujours, mais ils ne pourront jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ceux qui n'aiment pas la parole, c'est quand tu vas aimer la parole que la parole va t'affranchir. Le Christ est la parole. Si la parole t'affranchit, tu seras réellement libre. Mais si tu n'aimes pas la parole, tu chercheras, mais tu ne parviendras jamais à connaître la vérité. Mais quand tu vas écouter, aimer la parole t'affranchira et tu seras réellement libre. Ne méprisons pas la prédication de la parole, c'est la prophétie. Ne méprisons pas l'exhortation, ne méprisons pas l'enseignement de la parole. Si cet enseignement est biblique, est véridique, il faut accepter. Ça ne te coûtera rien du tout d'accepter, mais ça te coûtera de t'opposer. Ça te coûtera de résister. Ça va te coûter ta vie. N'est-ce pas? Comme Jeannès et Jambres. Il y a eu des Jeannès et des Jambres au milieu de nous. Vrai ou faux? Si tu veux vivre ce siècle-là, tu veux vivre dans ce siècle, la parole de Dieu, sincèrement, tu seras persécuté. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres, et ils vont s'égarer eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Demeure dans les choses que tu as apprises. Vous avez appris beaucoup de choses, n'est-ce pas? Si on pouvait donner des diplômes, on allait vous donner déjà la licence. On allait donner la licence à certains. Vous maîtrisez la parole. Puisque toutes les virgules vous sont enseignées. Tout est décortiqué. Vous avez reçu la parole. Demeurez donc dans ces choses que vous avez apprises et reconnues certaines, sachant de qui vous les avez apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Ici, c'est à Timothée, sa maman l'a éduqué dans la voie du Seigneur. Mais toi, depuis que tu as été saisi par Jésus, tu as accepté Jésus-Christ, est-ce que tu n'as pas été enseigné aussi? Tu as été enseigné. Et ce sont ces enseignements qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Si la parole de Dieu n'arrive pas à te convaincre, il n'y a pas un autre esprit qui va te convaincre. Parce que la parole est esprit et vie. Il y a certains qui disent, non, j'attends que le Saint-Esprit me convainque. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est la parole. À partir du moment où l'Esprit de Dieu se trouve dans sa parole. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Ce que Dieu pense, si ça ne te convainc pas, qu'est-ce qui va venir te convaincre encore? Tu attends quoi? C'est une mauvaise manière d'interpréter la Bible. D'autres disent, ah mais le Saint-Esprit ne m'a pas encore convaincu sur ce que vous avez lu là. Le Saint-Esprit c'est qui? Jésus a dit, la parole que vous avez entendue est esprit et vie. Au commencement était quoi? La parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quand tu entends cette parole, c'est Dieu que tu es en train d'écouter. Si tu ne veux pas te laisser convaincre, il n'y a pas un autre esprit qui viendra te convaincre. Parce que la parole est utile pour te convaincre. C'est écrit là pour que tu sois convaincu que Dieu a raison. Mais tu vois que c'est écrit noir sur blanc et tu cherches une autre conviction. Si tu es dans l'adultère, Dieu parle de l'adultère. C'est tout. Réponds-toi et puis c'est tout. Si tu es dans l'impudicité, Dieu parle de l'impudicité. Si tu es dans le concubinage, c'est l'impudicité. Dieu en parle. Tu veux quelle conviction encore? Tu vas aller peut-être voir le pasteur Adama. Pasteur Adama, vraiment, j'ai appris à l'église baptiste là-bas que vraiment, les impudiques là, ça, le concubinage, c'est l'impudicité. Pasteur, qu'est-ce que tu penses? Tu as tout le temps pour prendre au pasteur alors que tu sais ce que c'est déjà. Tu sais que quand on n'est pas marié, ce qu'on fait en dehors du mariage là, c'est l'impudicité. Bon, tu vas aller demander au pasteur pourquoi. C'est déjà écrit, tu es déjà convaincu. Il n'y a pas une autre Bible où c'est écrit autrement. Bon, peut-être les Bibles modernes. Hein? Les Bibles modernes, les Bibles de péché aujourd'hui, là, peut-être c'est ça. Mais la vérité, c'est la vérité. On ne peut pas fuir la vérité. Si tu fuis la vérité, elle te poursuivra jusqu'au tombeau. Parce que le ciel et la terre passeront, dit Jésus, mais mes paroles ne passeront point. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi quand la parole de Dieu est clairement donnée, tu es concerné, répands-toi. C'est pas la peine de chercher midi à 14h, hein, Pasteur Thomas. Ce qui est écrit là, comment tu penses ça? Comment je pense ça? C'est écrit, un point très. La parole de Dieu, ce n'est pas la loi pour dire qu'il y a des arrêtés qui peuvent abroger d'autres arrêtés. C'est écrit noir sur blanc, un point trait, c'est terminé. Parce que la parole de Dieu est supérieure à la loi. Parce que la loi sort de la parole de Dieu. Et Dieu est supérieur. Quand il a parlé, il a parlé. Il n'y a pas dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas dans la parole quelque chose qui peut au moins m'arranger? Parce que tu as dit ça, mais il faut fouiller encore. Tu as deux femmes. La parole de Dieu dit que tu es adultère chronique. Les adultères n'iront pas au ciel. Tu veux qu'on dise quoi? On va dire quoi dans ça là? Si on veut t'aimer, ou si on t'aime, on doit te dire clairement ce que la Bible dit. Vrai ou faux? Tu as deux femmes. La Bible dit que les adultères n'iront pas au ciel. Tu as laissé ta femme pour prendre la deuxième. C'est la deuxième là. Tu es adultère avec elle. Toi et elle, vous irez en enfer. C'est écrit noir sur blanc. Tu veux qu'on dise quoi encore? Et tu cherches. Tu viens voir l'Aigré, Pasteur l'Aigré, vraiment. Ce que Pasteur Dion a dit là, est-ce que vraiment, il n'y a pas une autre parole là-bas pour moi? Si l'Aigré dit la même chose que Pasteur Dion, il s'en va voir Camus. Mais Camus, fouille ta Bible là un peu, il n'y a pas une autre parole pour moi. Toute sa vie, il va courir comme ça. S'il ne veut pas laisser l'adultère, il dit, ah, dans l'Église, il y a beaucoup de lois maintenant. Il fuit. Il va aller au CMA. Si un jour Dieu inspire le pasteur là-bas, il tape dessus, il dit, ah, ça là, l'église là devient loi aussi. Hein. Et il fuit. Et il va aller terminer chez Guru Maharaji. La parole de Dieu, elle est inspirée une fois pour toutes pour convaincre. Une fois que c'est dit, si ça te concerne, tu te répands. Ne cherche pas de midi à 14h. Dieu ne passe pas par mille chemins pour te convaincre. C'est écrit noir sur blanc, répands-toi. À moins que tu vives le modernisme, que tu essaies d'adapter la parole de Dieu à ta vie, au lieu d'adapter ta vie à la parole. Là, on est d'accord. Et dans ce cas-là, tu es classé. Il faut qu'on vous enseigne. Si on ne vous enseigne plus, il faut se plaindre. Vous êtes venu pour qu'on vous enseigne, qu'on vous dise ce que Dieu veut que vous fassiez. Dans une église où il n'y a pas l'enseignement, il ne faut pas rester là. Tu perds ton temps. Tu vas mourir. Et tu ne peux rien changer. Cherche là où on enseigne la parole. Parce que le peuple périt par manque de quoi? C'est clair. Pour enseigner, pourquoi encore? Pour convaincre. Ce n'est pas pour amadouer. Il dit, bon, de toute façon, ça ne fait rien. Reste dans ton péché là. Quand tu vas payer la dîme. Quand tu vas payer, il va prier. Péché là, ça, c'est pas grave. Si tu meurs, tu vas au purgatoire, tu restes là, on va arranger avec Dieu. Ton pied sortira un peu, et puis bon, finalement, tu sortiras. Il n'y a pas de purgatoire. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi? Vient quoi? Le jugement. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'arrangement de l'autre côté là-bas. La parole t'a été annoncée. On t'a enseigné. Et tu n'as pas voulu te laisser convaincre. Tu es perdu. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est comme la comptabilité. Hein? Dépense, non, entrée, dépense, ça doit être équilibré. S'il y a bénéfice, bénéfice doit aussi être au milieu, équilibré. Si c'est boiteux, on dit ça va pas. Si tu as fait entrée 100 000 francs, dépense 100 000 francs, qu'est-ce qui reste? Zéro. Mais entrée 100 000 francs, hein? Dépense 90 000. Qu'est-ce qu'il reste? Si on te demande le compte et puis dit 10 000 ne reste pas, est-ce que c'est normal? C'est comme dans la comptabilité, il n'y a pas de d'infirmité. C'est la même chose que la parole de Dieu. Le calcul de Dieu est juste. Dieu, il est bon, mais il est juste. Il te convainc, répands-toi. Il te corrige. La parole de Dieu est faite pour corriger. C'est-à-dire, nous sommes venus à l'église avec nos différentes manières de voir les choses, de voir la vie. Et la parole de Dieu est là pour corriger nos manières de penser, nos manières de voir, nos manières de dire, nos manières de faire. La parole de Dieu, elle est donnée pour nous corriger. Mais il y a certains qui viennent, qui restent dans leurs erreurs. Et ils sont sincères dans leurs erreurs. On peut être sincère dans le mensonge. C'est pour te corriger que nous faisons des études bibliques tous les mercredis. C'est pour te corriger. Ça, il faut mettre ça dans... Quand tu viens à l'étude biblique ici, sache que je m'en vais pour qu'on me corrige. Mais si tu viens déjà avec tous tes raisonnements, tu t'assois sur tes raisonnements, tu n'es plus chrétien. Tu es juge de la parole. Et le danger souvent, c'est les pasteurs ou les anciens d'église. Ils sont tellement anciens qu'ils disent qu'ils connaissent tout. Quand il y a la parole de Dieu, ils ne cherchent pas ce que Dieu veut leur dire aujourd'hui. Ah, il dit, bon, il devrait dire ça, mais il a manqué de mettre une virgule ici. Il a manqué de mettre un point ici. Et la parole de Dieu ne lui dit rien. Il dit, après tout, je suis ancien, hein. Il y a plein d'anciens qui seront en enfer un jour, vous savez. L'apôtre Paul dit quoi? Le grand Paul, il dit, je maltraite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, moi aussi je sois rejeté. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui iront au ciel. C'est ceux qui font la volonté de mon Père, a dit Jésus. Mes amis, je suis en train de vous prêcher comme ça. Si moi aussi je ne me conforme pas à la parole de Dieu, un jour vous allez me voir en enfer. Et vous serez étonnés. C'est pourquoi nous qui sommes anciens, nous qui nous disons anciens, pasteurs, missionnaires, quand la parole de Dieu est donnée, examinons nos vies et réglons nos vies. Alors Dieu ne fait point d'exception. Il n'y a pas de couloir chez lui. Il n'y a pas de couloir. Celui qui a péché sans la loi périra sans la loi. Et celui qui a péché avec la loi sera jugé par la loi. Nous qui sommes les anciens chrétiens, ouvriers de cellules, responsables de zone, pasteurs, missionnaires, on aime tellement enseigner aux autres qu'on oublie souvent qu'on doit se soumettre à ce qu'on enseigne. Il y a beaucoup qui iront en enfer un jour. Ils auront prêché comme des anges. Même les anges n'ont rien fait. Ils auront à chasser les démons, à guérir les malades, à faire. Et Dieu dit, je ne vous connais pas. Ouvrier d'iniquité. Donc voyez, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Ça va pour celui qui parle comme pour ceux qui écoutent. Et le prédicateur, ça je le dis aux missionnaires, aux pasteurs, aux anciens, si vous avez un péché dans votre vie, ce n'est pas la peine de dire, je ne vais pas prêcher sur ça. Si tu fais ça, tu ne seras pas sauvé toi-même. Là où tu sais que tu as tes faiblesses, là, prêche dessus pour que la parole de Dieu te sauve aussi. Alléluia. Amen. Dis, ah non, ça là, dans ces jours-là, vraiment, la convoitise a pris mon cœur. Là. Si je prêche sur ça, ça, c'est pas bon. Est-ce que toi, tu es Dieu? Tu convoites aussi comme les brebis. Donc, si la convoitise est là, c'est le jour-là même, tu dois chercher ce que Dieu dit à propos de la convoitise pour que toi aussi, tu sois délivré. Prêche aux autres pour que toi aussi, tu sois délivré. Est-ce que c'est clair? Hein, les pasteurs, vous qui êtes parmi nous, vous avez compris? Oui. Souvent, on est hypocrite. On prêche aux autres et puis on ne fait pas ce qu'on prêche. La parole de Dieu est faite pour quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. afin que l'homme que Dieu a créé soit utile et bon à toute bonne œuvre, qu'il soit accompli. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons accomplis, que nous soyons parfaits comme Christ. Christ est notre modèle. Un jour vient, nous serons parfaits si nous restons fidèles à sa parole. Amen. Regardez, il est dit quoi? C'est pourquoi nous qui enseignons, la Bible dit de ne pas jurer, mais ici, la permission est donnée à Paul de jurer parce que c'est très important. Regardez le chapitre 4. Je t'en conjure devant Dieu. Je t'en conjure. La Bible dit ne jurez pas, mais ici, la permission est donnée parce que c'est trop important. Les temps sont tels que nous devions dire que la vérité aux gens. Celui qui accepte, c'est ça. Celui qui n'accepte pas, c'est son problème. Et Paul dit qu'il en conjure. Je t'en conjure, pasteur Timothée. Pasteur Timothée était un pasteur. Pasteur Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son retour bientôt, de son avènement, de son royaume, au nom de son royaume, de son règne, à cause de son retour, à cause de son règne, prêche la parole. Ne prêche pas ta parole, mais prêche la parole de Dieu. Insiste en toute occasion. Insiste. Occasion favorable ou non, que les hommes acceptent ou qu'ils n'acceptent pas, dis ce que Dieu dit de dire. Reprends. Reprends. Dans la parole de Dieu, on reprend. Censure. Il faut censurer. Exhorte avec toute douceur en instruisant. Voyez, un enseignement qui porte fruit, c'est la vérité. Mais la vérité doit être prêchée avec amour. Car la vérité sans l'amour, c'est la dureté. Et l'amour sans la vérité, c'est la séduction. Si tu dis tu aimes, et que tu ne dis pas la vérité, tu séduis, tu trompes les gens. Si tu dis la vérité aussi, que tu ne le dis pas avec amour, c'est démoniaque. Donc, un enseignant doit enseigner de sorte que, même si les gens font 24 heures à l'écouter, qu'ils ne soient pas fatigués. Mais qu'ils reçoivent toujours quelque chose qui peut leur apporter la régénération. Il leur dit la vérité dans l'amour. Est-ce que c'est clair? Un prédicateur de l'évangile doit être comme la souris. Quand tu dors, la souris vient, il te mord et en même temps il met sa langue pour ne pas que tu sentes. Il te blesse et il met la langue et tu continues de dormir. Voyez, c'est comme ça. La prédication de la parole doit aller avec amour, mais en même temps en instruisant, en disant la vérité. De sorte que la personne qui est considérée, qui est concernée, sache que vraiment Dieu parle à lui, de lui à lui. C'est-à-dire qu'il faut parler des hommes aux hommes. On ne prêche pas pour passer à côté, pour mettre tout le monde à l'aise, quoi. Non, 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 non. La parole de Dieu ne met jamais à l'aise. On ne peut pas essayer de convaincre quelqu'un pour le mettre à l'aise. On ne peut pas corriger quelqu'un pour le mettre à l'aise. Donc, la parole de Dieu sera là. Et il est dit que nous devions prêcher la parole. Nous devions insister en toute occasion, favorable ou non. C'est-à-dire, on doit poursuivre le pécheur jusqu'à où il se cache là. Détruit la cachette pour qu'il soit à nu et qu'il dise Dieu pardon, je suis là. Donc mon frère et ma soeur, si tu vois souvent qu'on prêche avec insistance, c'est à cause de cela, parce que il nous a été demandé de le faire. Il va arriver, tu vas dire mais c'est de moi qu'on a parlé aujourd'hui. C'est pas à cause de toi seul qu'on doit préparer un message, c'est à cause des milliers. Mais comme c'est une inspiration et que Dieu connaît chacun, voyez, Ce qui va pour l'autre ne va pas pour toi. Mais tu recevras pour toi de sorte que tu sens que c'est de toi que Dieu parle, que tu dois changer. Bon, le nouveau qui vient, quand le prédicateur donne la parole de Dieu, l'enseignant donne, il va dire à celui qui l'a invité, mais tu es allé dire à ton pasteur là, tout ce que j'ai fait. Chez vous là-bas, on nie les gens. Non. Pour ceux qui sont nouveaux, il n'en est rien. C'est parce que c'est l'inspiration de Dieu et Dieu est omniprésent, omniscient. Tout ce que tu fais là, il connaît. Donc c'est lui qui parle. Regardez ce qui est dit là. 2 Pierre chapitre 1. Nous le lisons ensemble à partir de verset 20. Lisons ensemble. Très fort. Vous ne suivez pas. Arrêtez-vous. Donc, écoutez-moi. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Nous n'avons pas le droit d'interpréter la parole de Dieu comme bon nous semble. On doit être réglé sur la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Aucune prophétie de la parole ne doit être l'objet d'une interprétation particulière. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre la parole de Dieu pour particulariser, pour l'adapter à ma circonstance. C'est moi qui dois m'adapter à la parole, à la prophétie. Pourquoi? Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Celui qui vous enseigne, il est poussé par qui? Par qui? Et le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes parlent de la part de Dieu. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais que si vous entendez l'enseignement, ne dites pas c'est l'homme qui parle. Alors, comme il parle, moi, je cherche ailleurs. Je cherche la solution à mon problème ailleurs. Il faut être soumis à la parole pour qu'on reçoive. Parce qu'il est dit dans 2 Timothée chapitre 4, car il viendra un temps, et c'est ce temps-là que nous vivons là, maintenant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les gens n'aimeront plus la vérité. Et c'est ce temps que nous vivons déjà. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, une foule de docteurs, une foule d'enseignants. C'est-à-dire quand ils vont voir un enseignant qui dit la vérité, ils vont quitter là, aller chercher d'autres enseignants qui les mettent à l'aise. Ils chercheront à entendre des choses agréables. Alors faisons très attention, le temps est venu où les gens vont courir pour chercher des choses qui leur plaisent, des paroles qui les mettent à l'aise. Qui les mettent à l'aise. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, la vérité de la parole. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, c'est-à-dire d'enseignants selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, vers des choses extravagantes. C'est pourquoi la parole de Dieu est la racine de notre vie. Parce que ce que vous recevez, la vérité, beaucoup veulent avoir, mais ils n'ont pas. Il faut leur permettre aussi de partager. La parole de Dieu doit être pour nous un trésor à ne pas négliger. Nous allons connaître dans ce monde qui vient, avec la nouvelle structure du monde, les hommes seront libérés à faire comme bon leur semble. Nous serons aussi oppressés par le péché. Le diable va lutter contre l'Église par toutes sortes d'apostasies. Mais grâce à la parole du Seigneur, nous serons préservés. Ceux qui auront obéi à la parole, ils seront préservés de l'apostasie qui vient. Et ils connaîtront un jour la félicité. Le Seigneur dira, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, Tu as été trouvé victorieux, victorieuse. Rentre dans la joie de ton maître. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Radio Chandelier, la voix qui proclame la vie de lumière sur le 99.8.
Vous venez d'écouter à l'instant Parole révélée sur Radio Chandelier. Il était question de la source de la parole. Si après avoir écouté cette prédication, vous désirez en savoir davantage, contactez-nous au 07 10 49 42. Et si vous souhaitez avoir ce message ou d'autres informations relatives à Radio Chandelier, vous pouvez nous joindre au 08 62 56 29 ou nous écrire à info au pluriel radiochandelier.net. On se dit au revoir sur ces notes et que la grâce de Dieu soit votre partage.